Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Fadel Alou de la radio Faraa Gaya, une radio partenaire du studio Kalangou. Quelle gouvernance dans la gestion du cas des enfants en difficulté dans le département de Gaya? C'est la thématique du forum du jour au studio Kalangou. Cette émission réalisée à Gaya vise à amplifier l'impact des programmes sur la gouvernance nationale et régionale produits régulièrement par studio Kalangou. Elle renforcera le dialogue et la redevabilité entre les populations et les autorités au niveau des communes et des régions, mais aussi favorisera le dialogue et la transparence entre les institutions et la société civile. Gaya, c'est un rappel, est au sud-ouest du Niger, à 289 km de la capitale Niamey, et partage ses frontières à l'est par la ville de Kamba au Nigeria, à l'ouest par le département de Djoundjou, au nord par la ville de Dosso, le chef-lieu de la région, et au sud par Malanville, une ville de la République du Bénin. La commune urbaine de Gaya compte 77 034 habitants qui se partagent une superficie de 360 km² selon le dernier recensement en 2012 commandité par le Niger. Ce même Niger compterait, selon un rapport publié en février 2020 par l'Organisation des Nations Unies, près de 3 millions de personnes, dont plus de la moitié des enfants ont besoin d'aide humanitaire. Dans le département de Gaya, les enfants sont confrontés à des problèmes psychosociaux et d'autres formes d'abus. Toutes ces difficultés empêchent leur épanouissement au sein de la société. C'est conscient de cela que l'État du Niger a élaboré, au niveau du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, plusieurs programmes susceptibles d'aider à l'épanouissement de cette frange de la population, certes vulnérable, mais sur qui reposera le Niger de demain. Pour toucher du doigt cette question humanitaire, nous tenterons avec nos invités d'obtenir des données sur l'ampleur du facteur, les besoins pour le juguler, les moyens disponibles et comment sont-ils utilisés. Bref, comment se porte cette gouvernance? À cet effet, nous avons l'honneur de recevoir Madame Amina Mohamadou, directrice départementale de la protection des enfants et de la promotion de la femme de Gaya. Nous avons aussi Monsieur Oumarou Moumouni, conseiller pédagogique à Gaya. Nous avons aussi avec nous Monsieur Soumaila Yakouba, président des comités de gestion des établissements scolaires aux primaires de Gaya. Messieurs, dames, bienvenue à tous au forum du studio Kalangou. Madame Amina Mohamadou, directrice départementale de la protection des enfants et de la promotion de la femme, dites-nous dans quel cas un enfant est déclaré en difficulté et a besoin d'aide au Niger. Quels sont les indicateurs qui permettent de faire cette affirmation?
Merci beaucoup, M. Fadel, de m'avoir donné cette opportunité pour m'adresser au public dans le domaine de la protection de l'enfant. D'abord, avant de répondre à votre question, il faudrait qu'on définisse ce que c'est que l'enfant d'abord. Donc, l'enfant est défini comme étant toute personne n'ayant pas atteint les 18 ans. Moins de 18 ans, c'est ça qu'on appelle enfant, d'après la législation au Niger. Donc, les indicateurs qui permettent de déterminer que cet enfant-là est en difficulté sont de plusieurs sortes. Il y a d'abord un indicateur, un enfant non accompagné séparée, qu'on rencontre dans la rue un enfant abandonné comme ça, c'est un enfant qui a besoin d'une aide. Par exemple, un enfant qui est né et qui est abandonné comme ça, qui est jeté, excusez-moi du terme, ou alors un enfant qu'on intercepte dans la rue seul, sans accompagnant, cet enfant-là a besoin d'aide pour s'épanouir. On appelle enfant victime d'abandon anonyme, ou c'est d'abandon anonyme, c'est au cas où l'enfant est jeté comme ça, anonyme. On a eu beaucoup de cas ici à Gaya. Le deuxième indicateur, c'est l'enfant victime de négligence. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il peut avoir des parents, mais que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Par exemple, l'alimentation, l'habillement, sa santé, tout ça là, il y a des parents qui négligent. Enfin, ces genres d'enfants sont appelés victimes de négligence. Donc le troisième indicateur, c'est la maltraitance. La maltraitance, comme le nom indique également, nous avons des enfants qui sont victimes de maltraitance, qui sont maltraités soit par des parents, soit par des tuteurs, soit par des marabouts, soit par des personnes. On vérifie, voir si également, effectivement, la maltraitance est avérée. Quatrième indicateur, c'est abus sexuel ou agression sexuelle. Il y a des abus sexuels suivis de grossesse. Il y en a qui ne reconnaissent même pas. Il y a un cas qui a attiré beaucoup plus notre attention, parce que ce cas-là, on n'a pas pu le gérer ici. Il a fallu qu'on réfère le cas à Dosso. C'est l'hôpital de district même qui a donné un bulletin d'examen gynécologique pour aller à Dosso avec l'enfant. Donc cette situation nous a pris beaucoup de temps. La fille, elle a fait plus de 5 mois avant de retrouver sa santé. Et je vous informe que jusque-là, l'auteur est en fuite. On n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est la fille et ses parents, un autre service. Nous avons géré ça. La police a fait de son mieux. On n'a pas pu trouver l'auteur. L'indicateur, c'est l'exploitation et pire forme de travail des enfants. Là également, c'est le cas des enfants qui sont utilisés au niveau des carrières, au niveau des lieux préjudiciables aux enfants, des travaux qui sont pénibles. Qu'on utilise les enfants dans ces travaux-là. Ici, il y a une pratique qui se fait à Gaya. Il y a des marabouts qui contractualisent avec des particuliers, des commerçants. Ils utilisent les talibés pour aller dans les champs. Mais qu'est-ce qui bénéficie de l'argent? C'est le marabout. C'est un indicateur aussi qui nous permet de savoir que l'enfant est en difficulté. Il y a des personnes mal intentionnées qui sont là, qui ont des maisons, qui utilisent les enfants dans la prostitution. Les jeunes filles, vous allez les voir, elles vont défiler là-bas. Et tout celui qui cherche la dépoche, il va là-bas. Donc le prochain indicateur, c'est la traite. C'est la traite des enfants. La traite, c'est recruter des enfants ici au niveau de Gaya, par exemple. Comme nous sommes sur deux frontières, traverser les frontières avec ces enfants-là à d'autres fins. On ne sait pas à quelle fin. C'est ça qu'on appelle traite. Il y en a qui vont pour exploiter sexuellement. Il y en a qui vont pour utiliser les enfants dans les travaux pénibles, tout ça là. Donc c'est le fait de traverser une frontière contre le gré de ces enfants-là. C'est ça qu'on appelle traite. Parce que les enfants, souvent, ils sont trompés. Auprès de leurs parents, on leur dit que ces enfants-là, ils vont soit pour apprendre la culture islamique, soit pour autre chose, mais arriver au lieu, même à la destination, ils sont confrontés à autre chose. Et il y a un autre indicateur, menace ou mariage précoce, mariage d'enfants. C'est ces enfants-là qui n'ont pas l'âge de se marier. Selon la législation du Niger, il faut que la fille ait 16 ans pour être marié. Il y a des enfants qui sont mariés à 12 ans. 12 ans. Imaginez un enfant de 12 ans. Souvent, ils sont exclus de l'école. Maintenant, il y a même des complicités. Le conseil pédagogique va confirmer ce que je vais dire. Il y a même une complicité des professeurs ou des maîtres. Maintenant, ce qu'on fait, celui qui a besoin de la fille pour la marier, on cherche à corrompre, Et elle a des mauvaises notes. Et à la fin de l'année, elle est exclue pour être mariée. Voilà. Comportement à risque. C'est un autre indicateur aussi qui détermine que cet enfant-là a des difficultés, a des problèmes, il a besoin de protection. Comportement à risque, c'est des enfants-là qui ne sont pas satisfaits, qui commettent des vols, qui consomment des stupéfiants, des produits psychotropes. Donc, c'est ce genre d'enfants-là. Tous les indicateurs que nous venons de citer, dès qu'un enfant se trouve dans un des cas, il est en difficulté.
Pouvez-vous partager avec nous alors les données en votre possession, c'est-à-dire une estimation du nombre d'enfants touchés à Gaya ou sur l'ensemble du département de Gaya?
Pour le premier semestre de l'année 2020, nous avons 86 enfants. Nous avons 32 cas référencés par la brigade des mineurs, la police, les signalements reçus par les particuliers nous avons 34 cas. Détection active, des cas que nous avons découverts nous-mêmes suite à nos sorties de rue, nous avons 3 cas. Et pour la demande des parents, par exemple les enfants en difficulté d'accès aux soins ou des enfants issus des familles très vulnérables, nous avons les parents qui se présentent vers nous pour demander une aide sociale, un appui au niveau de la santé, un référencement pour des soins, tout ça là. Donc on a 12 cas de janvier à juin 2020. C'est ça que nous avons. Sinon, nous-mêmes, nous avons référencé 21 cas du moins vers d'autres services, notamment 3 à Boboy, 2 à Dosso, Wallam, nous avons 12 cas, Tillabéri, 2 cas, la police de Malanville, 2 cas. Ce qui fait 21 cas que nous avons référencés.
Ce sont des enfants du département de Gaya?
Oui, non. Les enfants, par exemple, les enfants de Boboy, c'est trois enfants plutôt, qui proviennent du Nigeria en apprentissage. Chez leur marabout, ils ont fui la maltraitance. Ils sont de Boboy. Nous, on a référencé. Ils ont reçu nos soins, on les a hébergés, on a procédé à la recherche de leurs parents et on les a référencés à Boboy. C'est Boboy qui va continuer, qui va faire le retour en famille, le placement de l'enfant dans leur famille. Et la plupart des enfants que nous recevons, ce ne sont pas des enfants de Gaya. Ceux que nous avons ici comme les enfants de Gaya, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont signalés, le signalement reçu. Que nous avons, c'est des cas de maltraitance, des cas de négligence, des cas de comportement à risque des enfants que les particuliers viennent nous déclarer ici dans la ville ou ailleurs ou dans les environs comme ça.
Alors, dans le département de Gaya, quelles sont vos zones d'intervention et quelles sont les difficultés répertoriées dans ces zones?
Nous, on intervient sur tous les départements, mais plus particulièrement la commune urbaine de Gaya, la commune de Tanda, la commune de Bana et la commune de Bengo. Par faute de moyens, qu'on avait pensé vraiment à mettre en place des comités pour nous transmettre les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés. Parce que nous sommes ici un service au niveau de la commune urbaine. Nous n'avons aucun moyen à notre disposition, par exemple un véhicule ou du carburant pour sillonner les communes. On n'a pas ces moyens-là. On intervient uniquement dans la commune. Sinon, ici dans la commune urbaine et même les autres communes, si on arrive à avoir des enfants, on gère la situation, on gère l'enfant, on fait une médiation. Le plus souvent, si nous, on se déplace pas, on fait déplacer les parents pour venir ici. On fait une bonne médiation en collaboration avec nos partenaires et on remet l'enfant au niveau de ses parents.
Ces zones dans lesquelles vous intervenez, quelles sont les difficultés répertoriées?
Les difficultés, c'est les cas d'abus, les cas de mariage d'enfants, le cas de négligence, de maltraitance, tout ça là, on a beaucoup de genres de cas. Surtout dans la commune de Tanda, que je vous dis, c'est des cas de mariage d'enfants, des filles qui sont exclues de l'école à des fins de mariage. Et ça, c'est signalé par le directeur départemental de la directeur de DEDES, d'enseignement secondaire. Oui. Donc voilà pour ce qui nous a motivés à mettre en place un comité dans la commune de Tanda. Et ce comité-là a vraiment porté ses fruits. Dès qu'il y a un cas, ses fruits plutôt, dès qu'il y a un cas, il référence vers nous, on nous informe et nous, on essaie de gérer ça. Et si on n'a pas les moyens d'aller, on convoque les parents qui viennent. Ici, on fait une bonne médiation en collaboration avec les partenaires, notamment la police, notamment la justice, la gendarmerie. Et ici, c'est au niveau d'une autre commune.
Monsieur Oumarou, vous avez écouté la directrice départementale de la protection des enfants et de la promotion de la femme. À votre avis, quelles sont les causes de tous ces problèmes rencontrés par ces enfants du département de Gaya?
Merci bien Fadel. Et c'est vrai, nous avons écouté la directrice de long en large à travers ses propos. Donc, à notre niveau, ce que nous pouvons dire, les causes de ces difficultés des enfants-là sont de plusieurs ordres. Et il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes matériels. Donc, je m'en vais vous les éclater un à un. Les problèmes sociaux d'abord. Madame la directrice a eu à parler de négligence. Moi, je vais le qualifier d'une autre manière, les mauvaises relations parentales. Je peux l'appeler comme ça. Parce que un enfant qui, à la maison, n'a pas l'affection nécessaire de ses parents, ça peut conduire à ces difficultés-là. Le divorce des parents, le décès des parents. Et j'avais dit que les mauvaises relations, quand vous prenez par exemple, vous pouvez trouver dans des familles un père qui il est à la maison, mais comme s'il n'est pas là, il ne réagit pas. La maman peut causer n'importe quel tort à l'enfant, il ne dit rien. Ça, c'est des difficultés.
La maman peut être elle-même rejetante, voyez. Et l'enfant, au moment où il doit avoir l'affection, à manger bien, se vêtir bien, et là où il pense être en sécurité, il n'est pas en sécurité. Et c'est l'occasion pour lui de sortir. Il sort de la maison. Il va peut-être trouver, comme on l'appelle, peut-être un coin où il allait se sentir à l'aise. Et malheureusement, ce coin-là, c'est là où il sera confronté à beaucoup de difficultés. Et c'est ce que quelquefois on rappelle des enfants de la rue. Ils sont, vous avez vu, madame, dans les indicateurs, elle dit que c'est des enfants qui sont rejetés. Ils sont dans la rue. Ça, c'est une cause. Quand vous prenez les enfants qui sont en déperdition scolaire, au moment où l'enfant doit être à l'école, en ce moment-là, il n'est pas à l'école. C'est une cause. Vous avez vu, elle a retracé. Elle dit qu'elle considère l'enfant qui est de 0 à 18 ans. Et vous savez que le président de la République a dit que l'enfant doit être conservé à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous voyez? Et au moment où ces enfants-là, de 0 à 18 ans, ne sont pas dans un centre de choses, ça veut dire que c'est des difficultés. Au moment où on pense qu'il est à l'école pour suivre des cours, on le trouve ailleurs. Il peut s'adonner à la petite délinquance, il peut s'adonner au petit vol, tout ça là. La pauvreté. Quand je reviens sur le plan financier, la pauvreté est une cause de ces enfants-là en difficulté. Je n'arrive pas à manger à ma faim. Les trois repas quotidiens, là, ce n'est pas garanti. Et mais qu'est-ce que je vais faire? À la maison, il n'y a pas. Le papa, il se lève, il n'a aucun rond. Peut-être même le voisin n'a même rien. L'enfant, il va réfléchir, il va dire, bon, quand papa n'a pas, maman n'a pas, je vais sortir chercher, moi. Sur le plan matériel, l'enfant qui, par exemple, il voit que le voisin est nanti, Son voisin, le voisin, les enfants du voisin ont un vélo, lui il n'a pas. Bon, il va essayer d'embêter les parents, ils n'ont pas les moyens. Et lui aussi, il va sortir. Peut-être même il va à longueur de journée suivre le petit là qui a le vélo, ils vont suivre, ils vont rentrer dans la ville et puis c'est parti. Et il y en a plusieurs cas comme ça pour ces causes-là. Et ces causes, là, c'est ce qui induisent vraiment à cette petite délinquance que nous constatons dans le passé, petit vol. Et vous voyez, la directrice a eu à retracer que la prostitution, tout ça là.
Et quels sont, selon vous, alors, les moyens humains, matériels, adéquats actuellement utilisés pour soulager ces enfants en difficulté?
Moi, je pense que toute la société, toute la communauté doit bien réfléchir. Vous savez, comme chaque jour, comme conseil que je donnais aux enseignants, je disais que l'enfant là, c'est un don, même pas pour les parents, même toute la communauté. Et ces enfants là, nous devons leur donner protection et amour. Si ces enfants là ne sont pas protégés, si ces enfants là n'ont pas l'amour, mais je vous assure, ils vont se retrouver ailleurs. Et quand vous prenez par exemple à l'école, il faut vraiment penser que ces enfants là aient une bonne scolarité. Et tant qu'il n'y a pas cette scolarité là, c'est toujours la rue, vous voyez. Et même les services de choses. Moi, j'ai eu à écouter la directrice. Et c'est vrai, il n'y a pas un centre. Elle a dit qu'il réfère ces enfants-là dans le centre de Dosso. Mais alors que Gaïa doit avoir ce centre-là pour accueillir ces enfants-là. Gaïa est une ville vraiment cosmopolite. Il y a tout, comme les frontières sont là aussi à côté. Donc Gaïa doit bénéficier de ce genre de centre-là pour pouvoir accueillir ces enfants en difficulté.
Monsieur Soumaila Yacouba, président des comités de gestion des établissements scolaires aux primaires de Gaïa. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces causes citées par Monsieur Oumarou Momouni?
Pas seulement pour Oumarou, même pour Madame. Parce que tout à l'heure, Madame, par rapport à l'enfant non accompagné, séparé, abandonné, moi je me réfère automatiquement au talibé. Il quitte son village, donc il n'est pas avec ses parents. Ça veut dire qu'il est séparé de ses parents. Il n'est pas accompagné comme il le faut, parce que le marabout, lui, peut-être qu'il a ses objectifs. Ça veut dire que tout à l'heure, elle a parlé des enfants qui ont été ramenés de quelque part, le marabout était absent. L'enfant qui est blessé, le marabout était absent. Donc ça veut dire qu'il est abandonné. Donc il a toutes ces qualités-là, les talibés, d'enfants non accompagnés, séparés, abandonnés. Et effectivement aussi par rapport à l'exploitation. Si nous nous référons vraiment à ces marabouts exodants, comme on peut les appeler, quand ils viennent, effectivement, ils font des contrats avec les propriétaires des terrains. Ce sont les talibés qui vont travailler sur le sol là-bas. Et en dehors de ça même, il y a certains marabouts qui exigent les talibés que chaque jour, il y a une somme que les talibés doivent amener. Chaque jour, ils vont voir, c'est une maltraitance. Ça, tu seras sur le côté. Et tu vas te retrouver chez Hadji Amina. Maintenant, quand je vais dans la zone rurale, là, tu vas voir des filles de 13-14 ans qui ont des bébés sur le dos. Vraiment, ça me décourage. Ça veut dire que ce sont des mariages vraiment précoces, où vraiment la fille n'a vraiment pas atteint sa maturité pour le mariage. On la marie, bon.
Mais là, quelles sont les responsabilités des parents et de la société qui expliqueraient ces problèmes que rencontrent les enfants?
Ces problèmes, c'est que parfois, et les responsables même des structures, quand ils réagissent, le pouvoir ne réagit pas. Si le pouvoir ne réagit pas, ça veut dire que ça même décourage.
Oui, mais déjà, est-ce que ça ne commence pas par la maison? L'éducation commence par la maison.
Oui, on sait que l'éducation commence par la maison. On a beau éduquer, par exemple, l'enfant à la maison. Maintenant, quand il quitte la maison, il rencontre, comme l'a dit le conseiller, des groupes d'enfants mal éduqués et qui, régulièrement, s'il est avec lui, il va changer. L'éducation qu'il a à la maison risque de changer et les autres vont l'entraîner et il va être aussi comme eux. Mais si tout le monde s'attelle à donner une bonne éducation à ses enfants, je crois qu'on va réussir. Le développement, ou du moins la protection de l'enfant, aura moins de travail à faire. L'enfant, dès qu'il l'a donné, il faut vraiment l'entretenir jusqu'à ce qu'il ait au moins sa majorité.
Madame Amina Mohamedou, de quoi dispose votre direction pour protéger ces enfants dans le besoin, c'est-à-dire les moyens humains, techniques, financiers, etc.
Donc, les moyens que nous avons un partenaire, notamment l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui nous appuie dans ce cadre-là. Le ministère a le personnel. Malheureusement, c'est que je suis seule ici au niveau du département. J'ai un bénévole avec qui on collabore. Nous sommes deux. De la protection. Imaginez ce que ça fait. Pour le service de la protection, si on a besoin d'une bonne protection, il faut au moins 5 agents. Au moins 5 agents. 5 agents, sans la directrice. 5 agents qui vont travailler sur le terrain. Et par rapport au cas des enfants dont les mères sont des orphelins de mère, on fait une demande au niveau de la mairie et la mairie nous appuie dans ce sens-là. Donc c'est les deux. En dehors, on n'a pas un autre partenaire. Pour la protection, c'est les deux seulement.
Et côté technique, quels sont les moyens?
Les moyens, côté technique, c'est la collaboration avec la police, avec la gendarmerie, avec la justice, avec la garde nationale. C'est ces collaborateurs-là qui sont au niveau technique. Parce que c'est eux qui ont on collabore ensemble. Dès qu'on a un enfant, si ça dépasse notre compétence, on réfère soit à la police, soit à la justice pour nous aider à régler le problème de cet enfant-là. Techniquement, également, on collabore avec les autres régions du Niger par rapport à la gestion des cas d'enfants.
Oui, mais est-ce que vous avez aussi des plateformes multifonctionnelles pour pouvoir aider ces enfants?
Fonctionnelle qui regroupe plusieurs agents, notamment la police, les leaders religieux, les leaders coutumiers et l'éducation nationale. La santé, tout ça là. Et nous avons des comités de protection de l'enfant que nous avons mis en place au niveau des quartiers ici, au niveau de Tanda, de Bana, de Bengou, de la commune urbaine. Donc ces comités-là, dès qu'on a un cas, dès qu'on a des cas, on se réunit chaque mois. On fait la situation de la difficulté, auxquelles sont confrontés les enfants et on essaie de faire le point pour apporter des solutions.
Quels sont les moyens de déplacement dont vous disposez aussi?
On a une moto d'été.
Une seule?
Une seule moto d'été pour tous les départements.
D'accord. Ben, maintenant, avec tous ces moyens-là, qu'est-ce que vous faites pour protéger les enfants du département de Gaya? C'est-à-dire, je comprends que vous avez un certain nombre de moyens financiers, techniques, humains, mais que faites-vous concrètement pour aider tous ces enfants du département de Gaya?
Ce qu'on fait, on gère au cas par cas les enfants. Et ce n'est pas tous les enfants qu'on prend en charge. Ceux qui sont pris en charge par notre service, c'est ceux qui sont affectés, ceux qui sont dans la situation, ceux qui sont vraiment vulnérables, vous comprenez? Ce n'est pas tous les enfants. C'est des enfants qui sont victimes d'abus, d'exploitation et d'autres formes de violence. C'est ça que nous prenons en charge. Ce n'est pas tous les enfants en difficulté. On ne peut pas s'en sortir. Mais dès qu'un enfant se trouve dans la situation, les différents indicateurs là, par exemple, aujourd'hui, on découvre un enfant abandonné, un bébé qui est abandonné, qui n'a personne, on le prend en charge. Dès qu'on est saisi par le cas, on le prend en charge. On collabore avec la santé pour les soins, tout ça là. Et on collabore avec la justice pour nous donner une autorisation, une ordonnance, pour placer l'enfant à SOS Dossou, là où il va être pris en charge également. Voilà comment on fait. Si c'est un talibé qui vient par exemple de Malinville ou de quelque part, qui a été appréhendé par un particulier qui est venu avec l'enfant, d'abord on le met en confiance. On l'héberge dans une famille d'accueil. Nous avons des familles d'accueil, notamment les chefs de quartier. Il y a 5 chefs de quartier qui sont érigés en famille d'accueil. Actuellement, nous avons 2 filles au quartier Kouartegui, 2 chez Munkaï le Seyni, qu'on appelle Bougie, 2 fillettes de 14 ans, une de Malinville, une de Niamey Entala. Donc ces enfants-là sont hébergés d'abord là-bas, on les met en confiance, on les place dans une famille et régulièrement on va pour s'entretenir avec l'enfant pour que l'enfant puisse nous dire effectivement où se trouvent ses parents, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin maintenant. Si c'est un enfant qui veut regagner ses parents, s'il nous dit exactement l'adresse, la difficulté que nous avons souvent, quand l'enfant vient, les enfants mentent, ils ne disent pas la vérité pour qu'on ne les ramène pas de là où ils viennent. Vous comprenez, souvent ils ne disent pas la vérité. La première étape, c'est mettre l'enfant en confiance. Ne même pas essayer de faire aucun entretien avec l'enfant. Mettez-le seulement en confiance. S'il est sale, donnez-lui de l'eau, du savon, il va se laver, vous allez l'habiller, tout ça là, vous le demandez à manger et régulièrement vous lui rendez visite dans la famille d'accueil. Comme ça, vous allez le mettre en confiance. Après, on le prend, la famille d'accueil, on l'amène au bureau et c'est en ce moment-là qu'on commence les entretiens avec l'enfant. On se présente d'abord, nous sommes des agents de protection, nous sommes là pour vous. Maintenant que vous êtes séparés de vos parents, nous représentons vos parents, nous sommes vos parents, tout ça là, pour mettre l'enfant en confiance. Et dès qu'il va nous dire son identité, voilà de là où il provient, automatiquement on communique avec les collègues qui sont là-bas, partout au Niger, dans tous les départements du Niger, je vous dis qu'on a une représentation. Et on a un groupe, si on n'a pas le contact d'un de nos collaborateurs, on s'adresse au groupe. Sur séance tenante, vous avez l'adresse. Le contact du collègue, par exemple, si c'est Koni, si c'est Tawa, si c'est partout, dès au Niger, on a des contacts. Et c'est en ce moment-là que l'autre collègue va procéder à la recherche du parent de l'enfant selon les informations qu'il nous a données. Et ainsi, dès qu'il retrouve la famille, il nous dit. Nous, on fait un déplacement où mon collègue au Moua, on se déplace pour ramener l'enfant dans sa famille. On le référence au niveau du service de la localité. Le service va faire une médiation, va expliquer, comme l'a dit tonton, va expliquer aux parents que, pour le savoir là, partout il y a des marabouts. Vous n'avez pas besoin d'amener votre enfant à Sokoto ou à Birnikebi ou à Zamfara ou partout pour une étude coranique. Imaginez un enfant de Terra, de la bourse de Terra, de Wanzarbe, de Mangaïze, qui va jusqu'au-delà de Sokoto pour apprendre la culture islamique. Alors que dans Tilaberi, dans la région, il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de localités où il y a des écoles coraniques. Mais souvent, les parents ont démissionné. C'est un bon débarras. Il faut s'en débarrasser. Il faut amener l'enfant très loin de vous. Et les marabouts, souvent, c'est une contrainte pour eux. Imaginez, on envoie 100 enfants à un marabout. Comment il peut les nourrir? S'il a un champ, c'est une main-d'œuvre pour lui. Il sera obligé de les utiliser dans son champ, pour labourer son champ. Les parents, c'est comme ici à l'école. Quand nous envoyons les enfants à l'école, c'est fini. On le confie au maître. Tu ne retournes pas pour savoir est-ce que l'enfant vient à l'école. C'est quoi, comment sa scolarité, c'est comment son comportement vis-à-vis de ses pères, vis-à-vis de ses professeurs, vis-à-vis de ceci, cela. Non, c'est à la fin de l'année, quand il a une mauvaise note, on va voir le parent se présenter qui n'est pas d'accord. Et voilà, voilà, voilà. Alors qu'au cours du cursus scolaire, tu dis, le professeur ne te connaît même pas en tant que parent. Ça, c'est une fuite de responsabilité. C'est comme l'a dit le conseiller, les parents sont en grande partie responsables de la situation de leur enfant. La pauvreté, oui, la pauvreté peut aider. Dans le cas des mariages, en tout cas, c'est la pauvreté souvent. Puisque c'est pas à n'importe qui qu'on marie un enfant de 13 ans, une fille de 13 ans. C'est des nantis, c'est des grands commerçants. Un pauvre type ne va jamais se présenter chez quelqu'un pour te dire qu'il a besoin d'une fille de 13 ans. S'il n'est pas commerçant, je vous en prie, et partout. Dès que vous voyez un mariage d'enfant, soyez sûr que c'est une personne nantie. Ce n'est pas n'importe qui.
D'accord, merci. Monsieur Soumaïla Yacouba, comment appréciez-vous ces différentes interventions que vient de nous citer la directrice départementale de la protection des enfants et de la promotion de la femme ou bien d'autres organisations non gouvernementales dans la ville de Gaya?
Bon, moi je ne peux parler que de ce que j'ai entendu de la directrice. Et moi j'apprécie beaucoup Et vraiment, si ça continue comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui seront récupérés. La traite, là, ça va même disparaître. Voilà ce que je veux dire. Vraiment, j'ai apprécié leur manière de travailler avec leurs différents comités qui sont dans les communes.
Je reviens à vous, Madame Amina Mohamedou. Quelles sont vos principales difficultés pour mener à bien votre mission, c'est-à-dire insuffisance de moyens, manque de partenaires techniques et financiers, incompréhension des leaders religieux, coutumiers, d'opinion ou de la société dans son ensemble?
Les difficultés, ça ne manque pas. Les difficultés, c'est le plus souvent, c'est au niveau des enfants quand ils viennent. Ils ne veulent pas dire la vérité. Imaginez les deux fillettes que nous avons actuellement dans une famille d'accueil. L'une a refusé complètement. Elle ne veut pas dialoguer. Elle ne veut pas dialoguer. Jusque-là, l'information qu'il nous a donnée, on a saisi le gars. Elle dit qu'il ne la connaît même pas. Puisqu'on photographie la photo de l'enfant et on renvoie à nos collègues pour procéder à leur recherche. À la recherche de la famille de l'enfant. La fille, on a pris sa photo, celui qui a dit que c'est son papa. C'est un gars qui est connu au niveau du quartier. On est parti, il dit qu'il ne la connaît même pas. Actuellement, elle est là. Ça fait 2 semaines qu'on gère cette situation-là. Et malheureusement, jusque-là, elle n'a pas dit son identité, où se trouvent exactement ses parents, pour qu'on puisse la ramener. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Et la grosse difficulté, c'est que ces familles d'accueil-là ne sont pas motivées. Ne sont pas motivés, aucune motivation. Ils font seulement du social. Vous comprenez? Vraiment. C'est seulement quand on a des renforcements des capacités, on leur renforce leurs capacités. Mais ils n'ont pas de motivation. Mais malgré tout, vraiment, je saisis cette occasion pour les remercier vivement. Parce qu'ils nous aident dans notre travail. Il y a des services où ils n'ont même pas de local pour pouvoir héberger un enfant. Donc on est obligé de l'amener dans une famille d'accueil. C'est comme l'a dit monsieur le conseiller, on a besoin d'un centre ici, au moins pour héberger ces enfants-là, pour rendre vraiment leur séjour agréable, le temps de retrouver leurs parents. Mais on n'a pas ce cadre-là, on est obligé de se référer au niveau des familles d'accueil. Et c'est des problèmes, imaginez un père de famille qui gère sa famille difficilement, on vient lui amener des enfants. Vous voyez ce que ça fait comme difficulté? Ça, c'est notre grosse difficulté. Les partenaires, il n'y a personne. Autre difficulté, on n'a pas les moyens de déplacement pour aller dans d'autres communes éloignées. Par exemple, à Yelou, on n'a pas les moyens pour aller à Yelou. Vraiment. C'est une moto, avec l'insécurité qu'il y a, quelqu'un va se déplacer sur une moto pour des risques. Dès qu'on te voit avec une moto, on va penser que tu es là pour distribuer du crédit ou tout ça là. Tu peux être agressé par des bandits. Tout ça là, nous ne sommes pas en sécurité. Voilà pourquoi on préfère aller intervenir dans les petites communes, dans les communes qui sont proches, qui ne sont pas très loin. Gaïa. Sinon, on a l'UNICEF seul qui nous appuie, plus la commune urbaine de Gaïa. Notre gros problème, c'est il y a également la malcompréhension des marabouts. Souvent, ils pensent que nous sommes là pour monter les enfants contre eux, que nous incitons les enfants à se moquer de tout ça. Là. Non, c'est pas ça. Parce que les marabouts, ils n'ont pas la notion de ce que c'est la protection. Ils n'ont pas cette notion-là. On a fait des renforcements des capacités, des ateliers aux leaders religieux, aux leaders coutumiers.
Je vais me tourner vers vous, M. Oumarou Moumouni, conseiller pédagogique. Quelles sont les solutions que vous proposez et à l'adresse de qui pour sortir ces enfants de la misère ou de la violence?
Je disais tantôt qu'il faut que les enfants là aient amour et protection. Quand un enfant est bien protégé, il n'aspire pas à faire autre chose que d'aller à l'école, que de se distraire, que de respecter ses parents. Tenir compte des différents droits et devoirs des enfants. Et vous avez eu à le dire, comme le Niger a signé plusieurs conventions et ratifié plusieurs chartes, donc par rapport aux enfants. Et c'est ça, il faut respecter les droits de ces enfants là par rapport à l'éducation, la santé, la nutrition et la distraction. Parce que la distraction aussi fait partie d'une étape importante de l'enfant. Éviter le travail des enfants, le travail forcé, comme chacun de vous a eu à le retracer ici, que les enfants sont maltraités, on les soumet à des activités qui dépassent leurs capacités. Et vraiment, il faut que ça cesse. Et aussi mettre fin à la traite des enfants. Et quand les parents vont donner leurs enfants en garde, il faut qu'ils s'en rendent compte à qui ils ont donné ces enfants-là. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionné. Je peux sortir avec un enfant hors du Niger pour dire que c'est pour m'aider à faire ceci. Mais en dehors de là, je peux le soumettre, si c'est une fille, à la prostitution. Si c'est un homme aussi, en tout cas, je peux même le vendre. Vous voyez, ça peut arriver. On ne sait jamais. Donc, il faut éviter ça. Il faut qu'on crée un centre de formation Parce que quand quelqu'un n'a pas de métier et il cherche de quoi manger, surtout quand les enfants ont un certain âge, avant d'atteindre peut-être les 18 ans, 16, 17 ans là, vraiment ils aspirent à avoir quelque chose dans leur poche pour au moins subvenir à leurs petits besoins. Parce qu'ils ne peuvent pas peut-être toujours s'attendre à ce que les parents les prennent en charge. Peut-être dans l'avenir qu'ils peuvent se rémunérer et puis peut-être même devenir de véritables professionnels.
Monsieur Soumaïla Yacouba, quels sont vos conseils et recommandations à l'endroit de la société, de l'État, mais aussi des partenaires pour juguler ce problème, disons, ce fléau qui pourrait compromettre l'avenir de ces enfants de plus en plus nombreux?
Par rapport à tout cela, vraiment, s'il est au niveau de la famille, c'est raté. Alors, il est très difficile de pouvoir redresser l'enfant. Parce que l'enfant qui n'est pas bien éduqué à la maison, on les voit à l'école, il y a des enfants qui viennent agresser même les enseignants. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les parents s'assument pour donner une bonne éducation à ces enfants-là. Il faudrait, par rapport à l'État, moi, surtout par rapport à l'exode des marabouts pour aller dans les centres, il faut que l'État formalise ça pour que ces marabouts-là restent au village. C'est certain que si c'est au village, quand les parents vont voir ce que font ces marabouts-là, les parents vont réagir. Parce que les enfants sont abandonnés ici à leur niveau. Donc le marabout, il fait ce qu'il veut. Vraiment, il faut que ça soit bien formalisé pour que vraiment l'école coranique éduque bien ces enfants-là. Et je reviens par rapport à l'école de formation artistique et culturelle là. Alors je laisse un appel, il faut ouvrir cette école à Gaya. Ça fait 3 ans, les enfants sont orientés mais ils ne sont jamais allés à l'école. Donc vraiment il faudrait revoir cette situation. Si moi j'ai des parents qui me disent jusqu'à présent l'école là c'est comment, je dis moi je ne sais pas. Franchement, il faudrait que cette école ouvre au niveau de Gaya.
Madame Amina Mohamedou, quelles sont les projections de votre direction et avec quels moyens agir avec plus d'efficacité dans la protection de cette couche très vulnérable?
Les projections de notre direction, c'est toujours la mobilisation ou l'accompagnement des enfants et l'accompagnement également, l'orientation, le renforcement des capacités de notre dispositif, notamment de la plateforme et des comités locaux de protection de l'enfant. Vraiment, c'est de les redynamiser, leur donner des capacités pour agir, également donner une bonne visibilité de notre service pour que les populations collaborent bien pour nous référer des cas d'enfants. Parce que la grosse difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas du tout déclarer quand un enfant est en difficulté. Surtout si c'est l'enfant d'un voisin, vous craignez qu'on dise que ah, c'est vous qui êtes parti dire. Alors que si vous déclarez, vous allez contribuer vraiment à la protection de cet enfant-là. Imaginez un enfant qui est séquestré tout le temps, qui est battu, qui est menacé parce que ce que le conseiller a dit, parce que sa mère a été divorcée, parce que c'est un orphelin. Tout ça là, il a été confié à quelqu'un ou il a été laissé à une marâtre et c'est elle qui la maltraite. Vous craignez de sauver cet enfant-là par peur que cette dame ne dise pas que c'est vous qui êtes parti dire. Non. Nous, si on nous saisit de ce cas-là, personne ne saura que c'est vous qui avez dit. On laisse nos contacts. Nous avons des plaques un peu partout dans la ville où nous avons laissé nos contacts. Dès qu'il y a des problèmes d'enfants, vous nous informez seulement par téléphone et vous nous identifiez l'endroit. Nous, on va pour sauver l'enfant, pour le sortir dans ces difficultés auxquelles il est confronté. Voilà, mais il y en a qui craignent, il y en a qui cachent et beaucoup de cas sont gérés là-bas entre familles que c'est un parent. Imaginez un enfant, un gaillard qui va violer une fille, qui va abuser d'une fille et qu'on dise que ah, vraiment, si c'est un parent, si vous partez à la police, qu'il va aller en prison, tout ça là. Vous voyez? Et beaucoup de choses sont arrangées comme ça dans les familles. Nous, notre projection vraiment, c'est d'amener ces populations-là à comprendre les droits de ces enfants-là. C'est comme l'a dit le président, un enfant, dès qu'il rate son éducation dans sa famille, c'est fini. L'État ne peut plus rien faire. Mais quand l'enfant reçoit une bonne éducation dans sa famille, l'État peut faire quelque chose, l'école va faire le reste. Mais quand vous venez, vous n'avez aucune notion, vous n'avez aucune éducation, vous venez, vous insultez les directeurs, vous insultez les conseillers, vous insultez tout le monde, vous êtes indiscipliné, personne ne va s'occuper de vous. Vous voulez vous retrouver dans la rue. Vous voyez, Donc vraiment, les parents également doivent donner une bonne éducation à leurs enfants. Quand vous amenez un enfant à l'école ou dans une école, n'importe quelle école de formation, essayez de suivre l'enfant. Vraiment, nous, notre souhait, c'est d'amener les parents à pouvoir s'intéresser à la formation de leur enfant ou bien à la vie de leur enfant, de protéger les droits de ces enfants-là. Si vous amenez un enfant en formation, essayez de suivre pour savoir quel est son état de formation, quelles sont ses capacités d'apprentissage, est-ce qu'il n'a pas de difficultés, est-ce qu'il se comporte bien. Tout ça là, vraiment, nous, à travers notre comité là, on essaie de sensibiliser les parents. On essaie d'amener les parents. Et c'est ça notre projection. On n'a pas suffisamment les moyens seulement à travers les réunions, à travers beaucoup de rencontres.
D'accord, merci Madame Amina Mohamedou. Comme l'a dit Moumouni Oumarou, l'enfant est un don de Dieu. On se doit de leur donner amour et protection. Et à M. Soumaila Yacouba d'ajouter que les enfants ont le droit d'aller à l'école. Il a aussi noté que 270 élèves du secondaire, c'est ça, ont été exclus cette année 2019. 2020. Et madame la directrice départementale de la protection des enfants nous a aussi énuméré tous les problèmes que rencontrent les enfants du département de Gaya et aussi les moyens mis en place pour les protéger. Il y a eu assez de recommandations, il y a eu assez de propositions, il y a eu même des projections. Merci à nos invités, merci à vous madame Amina Mohamedou, directrice départementale de la protection des enfants et de la promotion de la femme. Merci à vous M. Moumouni Oumarou, conseiller pédagogique. Merci à vous aussi M. Soumaila Yacouba, président des comités de gestion des établissements scolaires au niveau primaire de Gaya. Merci à tous. Au revoir.